SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 29 août. Colère à Londres alors que Boris Johnson a décidé de suspendre les travaux du Parlement et ce quasiment jusqu'à la date prévue du Brexit. À New York, la jeune écologiste suédoise Greta Thunberg est enfin arrivée après avoir traversé l'Atlantique en bateau. Et en Australie, funérailles d'État pour l'ancien vice-premier ministre Tim Fischer. Et on ouvre donc ce journal avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont la décision de suspendre les travaux du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit seulement 15 jours avant la date prévue du Brexit, fait polémique. L'opposition dénonce un coup de force. On écoute le reportage de Vincent Souriau pour RFI.
La suspension du Parlement, c'est la fuite en avant d'un Premier ministre illégitime. L'opposition bombarde Boris Johnson, tir croisé mené par le Parti libéral-démocrate, la formation pro-européenne de la députée Jo Swinson.
Boris Johnson a dit qu'il se verrait bien roi du monde, mais ce n'est pas le cas, il est Premier ministre, il devrait agir dans l'intérêt de la nation. Au lieu de cela, il essaye d'obtenir par la force un Brexit sans accord sur le dos de la population britannique. C'est antidémocratique, c'est une politique pour laquelle le pays n'a pas voté et un Premier ministre qui n'a pas été élu par le peuple.
Non seulement le Premier ministre s'en prend au Parlement, mais en plus, seuls les adhérents du Parti conservateur ont voté pour lui lors d'une élection interne. Comment peut-il se permettre ça, demande la députée écologiste Caroline Lucas.
Il est évident que Boris Johnson est en train de commettre un coup de force constitutionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Personne ne devrait oublier que le Premier ministre n'a qu'une majorité ultra mince au Parlement. Il n'a qu'un seul siège d'avance. Il a été élu par 0,1% de la population. Et il mène une politique pour laquelle il n'a absolument aucun mandat.
La seule arme constitutionnelle de l'opposition, c'est la motion de censure. Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, a déjà promis d'y avoir recours le plus tôt possible.
Et on prend maintenant la direction de Hong Kong, où un syndicat de l'aviation appelle à manifester pour défendre la démocratie. Un appel qui intervient après des pressions intenses et répétées du pouvoir chinois sur la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific. Et pressions qui ont entre autres conduit les numéros 1 et 2 de l'entreprise à démissionner. Pour le syndicat qui appelle à manifester, il s'agit selon lui d'une terreur blanche. Le reportage de Florence Dechangy pour RFI.
En plus des 6 cas connus, il serait déjà au moins 20 à avoir perdu leur emploi chez Cathay Pacific. Leur principal tort, avoir pris position en faveur du mouvement de protestation qui a commencé début juin à Hong Kong, un mouvement en opposition à un projet de loi d'extradition qui est devenu progressivement un mouvement demandant des réformes démocratiques. Le député de la Ligue des sociaux-démocrates, Avery Ng, était au rassemblement de mercredi après-midi, organisé par un syndicat de l'aviation par solidarité avec les employés licenciés.
La plupart de ces cas de licenciement n'ont strictement rien à voir avec le professionnalisme des employés. C'est simplement lié à une ou deux mises à jour sur leur compte Instagram ou Facebook. En bref, le gouvernement chinois dit « N'importe qui, ouvertement ou même secrètement, prend une position qui n'est pas conforme à la ligne du parti sera renvoyé. » Et cela envoie un message très dangereux, pas seulement à Cathay, mais aussi pour n'importe quelle entreprise qui a le moindre lien ou intérêt avec le marché chinois.
Les employés de Cathay Pacific redoutent à présent que se réponde une mentalité de dénonciation. Certains parlent de nouvelles révolutions culturelles. Florence Dechangy, Hong Kong, RFI.
Et Greta Thunberg, l'égérie suédoise de la lutte contre le changement climatique, est enfin arrivée à New York en yacht après avoir traversé l'Atlantique. Elle doit participer au sommet des Nations Unies sur le climat et son voyage en bateau, qui a démarré il y a quand même 2 semaines depuis les côtes anglaises, est à ce titre évidemment particulièrement symbolique. Et comme elle l'a expliqué, ce n'est pas qu'elle apprécie tant que ça les longues excursions en mer, mais elle estime que les générations précédentes, moins respectueuses de l'environnement, ne lui ont pas laissé le choix. On l'écoute.
The older generations are the ones who have been causing this problem.
So I don't think they should be saying to us, you should just be a normal kid and do what normal kids do, but you should, because they are the ones who have caused this, and we are just trying to clean up after them.
Et on va parler maintenant d'un pays en guerre, le Yémen, où le gouvernement vient d'annoncer la reprise d'Aden, la grande ville au sud du pays qui sert de capitale provisoire depuis que la capitale officielle Sanaa, au nord, a été conquise il y a 5 ans par les rebelles Houthis. Les explications de Muriel Paradon pour RFI.
Une victoire totale pour le peuple yéménite. Le ministre de l'Information se réjouit sur Twitter de la prise d'Aden par les forces gouvernementales. Les soldats sont entrés dans la ville en reprenant des points stratégiques comme l'aéroport et le palais présidentiel au prix de quelques combats. Des séparatistes s'étaient emparés d'Aden ces dernières semaines et également de régions alentours. Selon le ministre de l'Information, la reconquête de la ville s'est faite grâce à l'envoi d'importants renforts. Une médiation a également eu lieu ces derniers jours avec l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement yéménite et les Émirats Arabes Unis qui appuient les séparatistes. Tous étaient pourtant alliés au sein du même camp pour lutter contre les rebelles Houthis qui sont en guerre avec le pouvoir depuis fin 2014. Mais la situation s'est complexifiée avec l'entrée en scène des séparatistes du Sud. Le conflit au Yémen, malgré des tentatives de médiation de l'ONU, reste toujours aussi dévastateur. Il a fait des dizaines de milliers de victimes et provoqué une grave crise humanitaire.
Et en Australie, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé qu'un homme d'origine irakienne et qui a été condamné pour avoir agressé une petite fille de 3 ans dans un centre commercial de Sydney allait être expulsé. Mohamed Hassan Al-Bayati, qui a été condamné à une peine de 4 ans et demi de prison, résidait en Australie en tant que réfugié. Il avait fait une demande d'asile en 2011. Mais le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, compte lui retirer son visa et le faire expulser une fois qu'il aura purgé sa peine de prison. Le cas de cet homme doit servir d'avertissement à tout le monde, a déclaré Scott Morrison sur le 7 Network. On l'écoute.
If you come here on a visa and you violate our laws, we will boot you out. That's the change we put in place, and it'll apply to this character. And just because you're on a permanent protection visa, it's a warning to anyone. We'll cancel it and we'll punch you.
Et un mot maintenant sur l'écrivain sino-australien Yang Heng-jun, qui est détenu à Pékin depuis maintenant 7 mois. L'auteur, qui est accusé d'être un espion par les autorités chinoises, a été interviewé par l'Australian Financial Review. Et dans cette interview, il demande aux autorités australiennes de l'aider à le libérer, je cite, « le plus tôt possible ». Scott Morrison a, lui, considéré que les accusations d'espionnage portées par Pékin étaient totalement infondées. Il a par ailleurs appelé le gouvernement chinois à veiller au respect des droits de l'homme. Et puis, nous vous le disions, aujourd'hui ont lieu des funérailles d'État dans la ville d'Albury, c'est au sud des Nouvelles-Galles du Sud. C'est l'ancien Premier ministre adjoint Tim Fisher qui est enterré aujourd'hui et de nombreuses personnalités politiques seront présentes pour lui rendre hommage. Ce sera notamment le cas de l'ancien Premier ministre John Howard avec qui Tim Fisher a gouverné. Il y aura aussi le Premier ministre actuel Scott Morrison, le leader de l'opposition Anthony Albanese, mais aussi plusieurs membres du parti des Nationals, dont Tim Fisher a été le dirigeant. Et puis, on fait maintenant un détour par la France, et plus précisément par Paris, où a été rendu hier un hommage aux 97 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, et ce, depuis le début de l'année. La cérémonie a été organisée par la mairie de Paris, par la maire de Paris, pardon, Anne Hidalgo, et à l'appel de l'actrice et réalisatrice Eva Darlan. On écoute le reportage sur place de Sylvie Coffi pour RFI.
Chantal, 60 ans, tuée le 14 mars à Causses et Véran. Arme à feu, 3 enfants.
Julie, 35 ans, assassinée le 3 mars à Lille-Rousse. Arme à feu, 2 enfants.
Ce sont les noms des 97 victimes. Ils sont inscrits sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. Un moment fort en émotion. Parmi ces noms se distingue celui de Julie Douib, tuée sous les coups de son ex-conjoint. Malgré le chagrin, son père a fait le déplacement. Il lui avait fait cette promesse.
Et bien d'abord pour que ça s'arrête, et je lui ai promis, sur son cercueil, que je me battrai pour ça. Au maximum, je ferai tout ce que je pourrais pour lui montrer qu'elle n'est pas partie pour rien. Ça devienne peut-être le symbole des femmes battues, puisqu'aujourd'hui, sur les 97 qu'il y a là, on parle d'elle. Et ce qui est important pour nous, hein, qu'au moins, on sache qu'elle n'est pas partie pour rien.
Et nous savons comment arrêter cette hécatombe. C'est indignée la comédienne Eva Darlan qui a interpellé le gouvernement.
On sait ce qu'il faut faire, on le sait déjà. Il faut former les policiers, les gendarmes, il faut former les magistrats, il faut faire des hébergements, il faut s'occuper des hommes violents. On n'arrête pas de répéter ça depuis des années.
Dans quelques jours, l'exécutif ouvre le Grenelle des violences conjugales qui va donner lieu à des annonces fortes pour endiguer ce fléau.
Un petit mot rapide de sport pour parler de l'US Open où le Suisse Roger Federer s'est qualifié pour le troisième tour après un match contre le Bosnien Damir Dzumur face auquel il a perdu son premier set. C'est donc un démarrage un peu poussif pour l'un des plus grands joueurs de tennis de la planète qui avait déjà perdu son premier set lors de son premier match. Et ce démarrage poussif, Roger Federer lui-même le reconnaît. On l'écoute.
I just tried to make less error. And be better on the offensive. Just takes me some time, I guess, so far. But you know, I was able to protect my serve after sloppy first set. So I'm very pleased at the end to find a way.
Et puis pour finir, on jette un œil à la météo de ce jeudi. Il pleut quasiment sur toute la côte est de l'Australie. C'est notamment le cas à Sydney où il fait 16 degrés, mais aussi à Newcastle avec 18 degrés, ou encore à Wollongong à 14 degrés. Il pleut aussi à Brisbane, mais il fait en revanche 24 degrés. Il y a des nuages à Melbourne et seulement 13 degrés, soit exactement les mêmes conditions météo que Canberra ou encore Cobart, où il fait un petit degré plus, 14 degrés. 15 degrés à Adélaïde, où il y a en revanche du soleil. Soleil aussi à Cairns, où le thermomètre affiche 28 degrés, mais aussi à Darwin, où il monte même jusqu'à 33 degrés. Il fait beaucoup moins chaud à Perth, avec 22 degrés aujourd'hui et des averses tout au long de la journée.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.